Et c'est hashtag on en parle juste avant la revue de presse avec vous, Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, alors à Roland-Garros, ce sont les après-midi de Nadal, hein, bien sûr, ça fait 17 ans que ça dure. Hein, le choc du jour qui oppose justement Nadal à Zverev pour une place en finale chez les hommes. Mais l'heure est tout de même à la polémique. En cause, le manque de visibilité du tennis féminin.
Oui, et c'est Amélie Mauresmo qui est visée par un certain nombre de critiques. L'ancienne numéro 1 mondiale, qui est aujourd'hui la directrice du tournoi. En conférence de presse, eh bien, une journaliste l'a interrogée sur les night sessions. Vous savez, ce sont ces matchs programmés le soir en prime. Ouais. Et alors, sur les 10 organisés cette année, une seule de ces soirées a mis en avant le tennis féminin. Alors, est-elle à l'aise avec l'image que ça renvoie pour les femmes? On écoute la réponse d'Amélie Mauresmo qui répondait en anglais.
As a woman, a former woman's player,
en tant que femme et ancienne joueuse, je ne me sens pas mal et je ne trouve pas ça injuste de dire qu'actuellement, il y a plus d'attrait pour les matchs masculins. Voilà ce qu'a dit Amélie Mauresmo. Et cette sortie a jeté le feu aux poudres, certains y voyant une forme de légitimation de l'inégalité de traitement médiatique entre les hommes et les femmes en tennis. C'est le cas pour l'ancienne championne de tennis, Martina Navratilova, qui écrit par exemple sur Twitter « Commentaire très décevant de Mauresmo, c'est le moins qu'on puisse dire. Le ton est donné. » Et puis autre réaction, celle de la jeune numéro 1 mondiale, la polonaise Świątek, qui s'est qualifiée pour la finale du tournoi cette année. C'est un peu décevant et surprenant parce qu'elle vient aussi du circuit féminin. C'est vrai que c'est plus simple de jouer aux heures habituelles, l'après-midi. Mais bien sûr que je veux divertir le public et leur montrer mon meilleur tennis. Alors bon, face à l'ampleur de la polémique, Amélie Mauresmo a été obligée de s'excuser auprès des joueuses qui se sont senties blessées, c'est ce qu'elle disait. Elle affirme avoir été mal comprise, que ses propos ont été sortis de son contexte. Les gens qui me connaissent savent que je suis une grande combattante pour l'égalité des droits et le tennis féminin. Amélie Mauresmo qui précise aussi autre chose. Elle dit qu'actuellement, il n'est possible de programmer qu'un seul match en nocturne par jour, sauf que les rencontres dames sont plus courtes que les rencontres hommes, ce qui voudrait dire que la personne qui a acheté son billet pourrait avoir l'impression de ne pas en avoir eu pour son argent, avec des rencontres en l'occurrence plus courtes. En tout cas, l'ancienne joueuse de tennis, Amélie Mauresmo, évoque qu'à l'avenir, il pourrait être prévu de programmer 2 matchs féminins par nocturne, donc peut-être un peu plus de nocturne féminine pour la suite, pour les années prochaines.
Bon, voilà, ça c'est dit. Allez, on va lire les journaux avec vous dans un instant, Benjamin, et on va commencer par La Provence. Guilhem Ricavi, directeur des rédactions du groupe La Provence, qui est avec nous. Parce que beaucoup, il y a beaucoup d'actualités en ce moment, enfin comme toujours d'ailleurs, à Marseille. Non mais c'est vrai, bonjour Guilhem.
Bonjour.
Il y a le sommet des citoyens. Sud Radio est partenaire et il a lieu pendant 2 jours, effectivement, à Marseille. Philippe David sera en direct ce soir. D'ailleurs, on va en parler dans un instant. Et puis, il y avait le président Emmanuel Macron qui était hier avec le nouveau ministre de l'Éducation.
Oui, effectivement, Emmanuel Macron, qui est véritablement amoureux de Marseille, il était venu faire la rentrée des classes à Marseille, à l'école Bouge, dans le 3e arrondissement. Il est revenu hier dans le 10e arrondissement avec son ministre de l'Éducation. Et souvenez-vous aussi, d'ailleurs, Patrick, il était venu entre les deux tours de la campagne de la présidentielle, de la présidentielle,
ouais, c'est vrai.
Son seul meeting dans le jardin du Palais du Pharo. Et on voit cet attachement à Marseille, cette ville dont il a fait un symbole et un laboratoire à la fois d'idées, puisqu'on voit bien qu'il essaye dans les écoles des choses nouvelles et qu'il a choisi Marseille pour le faire, et puis aussi un laboratoire politique, car c'est assez représentatif de sa capacité à dissoudre les clivages politiques habituels, la gauche et la droite à Marseille. Tout le monde a à peu près changé de camp ces derniers mois, les LR sont devenus des marcheurs, et on voit bien qu'il a réussi comme ça à dynamiter totalement le paysage politique. Donc Marseille est assez emblématique de l'action d'Emmanuel Macron.
Oui, voilà, c'est ça. Même si c'est plutôt Mélenchon qui arrive en tête, en fait, à Marseille, quoi.
Enfin, exactement, la présidentielle.
Bah, oui.
Comme dans beaucoup de villes ici du sud, de grandes villes du sud, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait la course en tête.
Oui, absolument. Un mot, il y a ce sommet aussi citoyen qui a lieu aujourd'hui dans votre ville de Marseille, quoi. C'est-à-dire qu'on va leur donner la parole, mais ils ont choisi d'aller dans votre ville pour ça.
Oui, effectivement, ce très beau rendez-vous qui est très original, qui est très novateur. Hein.
Oui.
Plus de 300 militants associatifs et représentants de collectifs qui vont se pencher pendant 2 jours sur des réflexions, sur ce que veulent vraiment les citoyennes, comment faire remonter des idées. Et Aurélie Gros, qui porte ce projet qui est eu en région parisienne, eh bien, le dit, il ne faut pas croire que tout se décide à Paris. À nous de montrer que les choses peuvent être faites différemment, à nous de faire des propositions, de faire remonter des idées, d'incarner cette nouvelle forme de citoyenneté. Donc ce très beau rendez-vous pendant 2 jours, vous le disiez Patrick, avec Sud Radio, puis également la Provence a voulu s'y associer parce que la démarche est quand même très intéressante, de pouvoir donner la parole à des collectifs qui représentent pour prou 500 000 personnes en France aujourd'hui.
Oui, merci beaucoup Guilhem Ricavi, et tout merci. Ça c'est à lire évidemment dans la France, version papier et version aussi évidemment numérique. On poursuit la lecture des journaux avec vous Benjamin. Donc alors dans les journaux ce matin, j'ai perdu un petit peu les feuilles que
vous voulez qu'on commence par l'Ukraine.
Bah oui, par l'Ukraine. C'est le sujet du jour. 100 jours, hein, c'est
effectivement
ça.
Les 100 jours.
C'est les Russes qui se resserrent sur le Donbass. Un titre, par exemple, Le Figaro.
Hein. Oui, la guerre qui fait rage. Hein, rappelle une nouvelle fois le quotidien. Faut pas l'oublier. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a décidé de concentrer l'effort militaire dans l'est et le sud de l'Ukraine après les échecs de Kiev et de Kharkiv. Et donc, bah, c'est 100 jours en Ukraine qui ont changé le monde, selon Patrick Saint-Paul dans son édito du jour. Avec cette question, l'heure pour l'Occident est venue de se demander quelle victoire il veut, mais de toute évidence, le prix à payer pour une hypothétique défaite de Poutine sera insupportable. Le journaliste du Figaro qui fait de Volodymyr Zelensky l'amuseur public, devenu président, un héros d'une nation soudée par l'épreuve et galvanisée donc par la résistance du pays.
Bah, à ce propos, Zelensky, c'est une sorte de Coluche transformé en général de Gaulle. Ça, c'est une formule que l'on trouve dans le Parisien aujourd'hui en France.
Hein. Ouais, formule que l'on doit à Pierre Servan, spécialiste défense du journal Volodymyr Zelensky, qui n'a pas de formation militaire. En revanche, dit-il, Pierre Servan, il a un sens aigu de la communication. On a pu le voir tout au long de ce conflit et de la symbolique de guerre. Son grand talent est d'incarner le chef de guerre dans sa tenue, sa gestuelle, son courage. Il est devenu le chef de la grande guerre patriotique ukrainienne contre l'agresseur russe. Donc, il a réussi en tout cas ce défi-là.
Oui, c'est ça. L'inquiétude du jour aussi à lire dans le Berry Républicain qui concerne malheureusement encore l'état de notre secteur de la santé à Bourges. Les urgences sont sur le fil, hein, lance le journal.
Et comme dans beaucoup d'endroits en France, inquiétude en tout cas effectivement des urgences à l'hôpital Jacques-Cœur à Bourges. Le personnel se dit très inquiet pour l'été. En manque d'infirmiers, d'infirmières, le SMUR secondaire a dû revoir son organisation, explique le Berry Républicain. Un personnel qui se dit désabusé. Le quotidien explique même que pour les aider, des médecins urgentistes venus de l'étranger sont recrutés pour stabiliser au moins les effectifs. Témoignage très nombreux à lire donc dans le Berry Républicain ce matin.
Et puis, à propos de la santé, ça c'est intéressant, écoutez bien, une autre épidémie, ça n'a rien à voir avec la pandémie, le Covid ou la variole du singe, mais c'est l'anorexie et la boulimie, hein.
Ouais,
ça c'est dans Libération.
Ouais, effectivement, qui nous parle des TCA. Alors qu'est-ce que c'est que les TCA? Ce sont les troubles des conduites alimentaires. C'était la journée mondiale de ces TCA hier. Alors depuis le confinement, le nombre de cas de TCA explose littéralement, touchant désormais de jeunes enfants, car les professionnels du secteur sont submergés par une vague, plus 30%, 40% voire plus 50% selon certaines estimations. Un phénomène qui ne concerne pas que la France, mais qui est planétaire. La crise sanitaire a été le cocktail parfait, mais malheureux pour déclencher ces troubles alimentaires, analyse le chef du service nutrition du CHU de Rouen dans Libération. Il s'explique. Et les profils touchés sont nouveaux, alors que le patient type était une ado ou une femme. On est confronté de plus en plus à des adultes, des hommes, mais aussi surtout de très jeunes enfants. C'est ce que détaille le chef de la clinique, cette fois-ci des maladies mentales, à l'hôpital Sainte-Anne. Une situation urgente dans l'état d'urgence médicale actuel, car malgré les chiffres alarmants, eh bien un seul patient sur 7 souffrant de TCA serait aujourd'hui identifié.
Oui, allez. Dans un instant, direction justement ce sommet citoyen. Ouais, Philippe David y sera en direct ce soir de 17h à 19h du côté de Marseille. On va tout vous dire.
Avec cette question, est-ce qu'il est temps justement d'installer le citoyen à la table du gouvernement? C'est une grande question. On en parlera avec Aurélie Gros qui sera avec nous. Et puis Thierry Garrier, Philippe Bilger seront avec nous. Et vos appels comme tous les matins au 0826 300 300. À tout de suite.